Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Salut auditeurs, auditrices de Erdiwa et Radio Saint-Ferréol réunis. C'est l'heure de Il est une vallée, cette émission coproduite par l'association Bio-Vallée. Alors pour ce troisième épisode au sujet de ce que l'on appelle l'engagement citoyen, je vous propose pour aujourd'hui un petit portrait de ce que j'ai appelé, moi, des bâtisseuses de nouveaux commerces. Ou peut-être des bâtisseuses de nouvelles manières de faire du commerce. Ben oui, parce qu'il s'agit avant tout de défendre le vivant. Mais je vous laisse maintenant en compagnie d'Adèle, pâtissière d'un autre genre, et Marie, représentante du GRAP, le groupement régional alimentaire de proximité. Mais vous allez tout comprendre, voici l'histoire. Les bâtisseuses, les bricoleuses, de nouveaux récits.
Salut Adèle.
Salut Vincent.
Alors, c'est là la matisserie.
C'est là la matisserie. J'ai fait un brin de ménage avant que tu arrives. Regarde, je t'assois par là. La place du spectateur. Oh, puis chaud. Ça va?
Ça va.
T'as trouvé facilement?
Impeccable.
Allez, regarde. Wow. Bon, on va laisser ouvert. Mm-hmm. Je vais juste faire arrêter les insectes. Nickel. Tu peux t'asseoir si tu veux.
Merci.
Ça te va comme ça?
Très bien.
Super. Bon, mais bienvenue. Tu veux un verre d'eau, un café?
Non, c'est gentil, merci.
Eh bien, moi, je m'appelle Adèle Collard. Et moi, aujourd'hui, je suis pâtissière avec un M. Mon activité s'appelle la matisserie. Ce qui, voilà, ça suggère beaucoup de choses. Aussi un clin d'œil, un sourire. Beaucoup de choses qui m'intéressent autour de l'alimentaire. Alors moi, je viens d'un petit village hongrois. Mes quatre grands-parents étaient paysans. Et donc, dans ce village, j'ai grandi dans les cuisines de mes grands-mères. Et ça paraît un peu folklorique comme ça, mais c'était très concret. C'est-à-dire que nous, les enfants, on faisait tout. On allait chercher les légumes dans le jardin. On participait à toutes les étapes de la cuisine. Et puis, c'est un film tout près dans ma tête, quoi. Quand je vois mes grands-mères cuisiner une dans une cuisine où il y avait les petits poussins sous la lampe infrarouge qui sautaient dans le gâteau au fromage blanc, et chez l'autre qui faisait 120 kilos, qui avait des bras quatre fois les miens, alors que les miens commençaient à être pas mal, et que je vois faire entre le pain, l'épluchage des légumes, les viandes. Et puis nous, les enfants, je ne sais pas pourquoi, c'est la culture hongroise qui est comme ça. On avait toujours les meilleurs morceaux. Ma grand-mère, elle gavait les canards, mais le foie, c'était pour les enfants. Et le repas, c'était la fête. C'est toujours, j'ai l'impression que toute la nourriture, c'était pour faire plaisir aux enfants. Et ça colore toute la vie, quoi.
Alors, je vais faire des babka.
Pas très longtemps, j'ai juste à les sortir. La pâte est prête. Je les sors du frigo. C'est une pâte de brioche, une recette d'Europe centrale qui est une. je fais du sucré, je fais... ben voilà, c'est un amour d'activité, si tu veux. C'est un bricolage toute seule dans lequel je projette le lien que j'ai aux autres. Je pense aux gens à qui je fais à manger, donc que ce soit... des gens qui vivent autour de moi, dans ce petit réseau, dans ce petit territoire. Et moi, j'aime bien cette idée de pouvoir bricoler dans mon coin, chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, et en même temps que ce soit partagé. Moi, je m'éclate avec mes clients parce que du coup, ça donne lieu à des dialogues qui partent évidemment de l'enfance, les souvenirs, des sensations fortes, de qu'est-ce qu'on recherche quand je leur demande qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie. Ben voilà, c'est des souvenirs, c'est des grand-mères, c'est des femmes, les liens des femmes, des enfants, voilà, ça donne toujours lieu à des discussions assez intéressantes de comment rencontrer aussi l'autre, déjà. Le sucré, dans l'alimentaire en général, c'est vrai. Et dans le sucré, il y a quelque chose de, pour moi, très en lien avec le lait maternel. Moi, je pense d'abord à ça. Moi, j'ai allaité 6 ans, mes enfants, peut-être que ça vient aussi de là. J'avais envie que cet allaitement ne s'arrête jamais, alors... Mais malheureusement, je ne peux pas allaiter jusqu'à leurs 30 ans, donc je fais des gâteaux maintenant. Voilà.
Des babkas au pavot raisin sec avec un peu de zeste de citron et de rhum. La deuxième, c'est une garniture orange-noisette. Des oranges que je fais confire.
Je pense qu'il y a... Il y a du care, oui. Il y a, dans la matisserie, il y a cette envie, malheureusement depuis toujours, féminin, du care. En effet, prendre soin, il y a forcément, ça, malheureusement, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Oui, de créer du lien, de créer de l'envie, de partager du plaisir. Et aussi, et s'il y a un aime à cette pâtisserie, c'est un petit peu un jeu de mots, mais c'est aussi pour dire que ça, la pâtisserie, c'est aussi, enfin, créer des gâteaux, c'est aussi un monde dans le monde professionnel en France, dans l'alimentaire, qui est dominé par les hommes. Et quand j'ai fait ma formation de pâtisserie, j'étais assez étonnée de voir à quel point... Non seulement la cuisine, mais dans la pâtisserie aussi. Finalement, les belles places, les étoiles, les magazines, les grands restaurants, les palaces, ben c'est les hommes qui ont les étoiles. Et d'abord, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis après, ça m'a fait un peu rire jaune. Et je me suis dit, merde, où sont les femmes ? Où sont les femmes ?
Adèle, comment tu as à un moment donné décidé de te lancer dans ce projet, donc dans cette activité de matisserie?
Ben en fait, comme je me suis dit que je vais vivre 120 ans, que j'ai des grands-mères qui sont mortes très très vieilles, et que je me suis dit, ben voilà, je ne suis pas obligée dans mes revendications féministes. Je ne me sens pas une revendication féministe vraiment à la française, ou en tout cas à la française d'il y a plus de 40 ans. Je me sens plutôt à me dire, voilà, j'ai à la fois le droit d'avoir dans ma vie séquencé en chapitres. J'ai eu ma longue période d'études, mais ma longue période d'essayer de survivre à plein de choses, longue période de combat théâtral, de militantisme par l'art, des actions artistiques, etc. Et j'ai eu ma grande période de maternité qui est venue se nicher dans ce berceau tellement idyllique et parfait du Diwa. Et, Et donc, je me suis dit que voilà, après 40 ans, finalement, je peux tout imaginer. Je ne suis pas forcément obligée de retourner dans le monde du spectacle, dans la bataille artistique, et redevenir intermittente. Et que peut-être qu'il y a quelque chose aussi à laisser ses portes ouvertes, à me dire après 40 ans, finalement, ma vie n'est pas finie. J'ai des enfants, mais je peux finalement trouver plein d'autres choses. Et pourquoi pas essayer plusieurs métiers. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme, une expérience. Voilà, la pâtisserie est arrivée vraiment par un rêve. C'était un rêve que j'ai fait une nuit. Et le matin, c'était flagrant. J'ai pris mon téléphone et en 24 heures, j'ai trouvé les financements, la formation. Donc, c'était un projet... Comme dit Stéphane Pignal, un projet fusée, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de choses, mais entre autres qu'il n'y ait plus de nuages dans le ciel, et ça a marché. Voilà, donc c'était très porteur pour moi, que ce soit fluide, facile, etc. Et puis un jour, j'ai rencontré Marie-Michel dans une réunion de Comcom, qui a eu cette grande phrase en disant, mais en fait, tu peux à la fois être dans ton propre activité, tu peux être un salarié tout en n'ayant pas de patron. C'est-à-dire, ça a vraiment résonné en moi à me dire, tiens, en effet, ça peut correspondre à une activité où on est tout seul et en même temps, au-delà du symbolique du métier que je choisis, il y a aussi un lien qui dépasse cette activité tout seul. C'est que j'aurais été incapable d'être autre entrepreneur. Juste fabriquer du fric, de bricoler dans mon coin... J'ai jamais fait ça et je pense que j'en serais incapable. Et là, ce qui me plaît, c'est que par cette activité, je fais aussi partie d'un groupe qui travaille à une dimension sociale plus large et que je trouve utile. Voilà, donc tu vois comme la pâte est froide. La pâte à brioche fermentée au levain, elle est froide, elle contient moins de beurre que la brioche française. Du coup, elle est facile à étaler et à garnir. Et là, celle-là, je l'ai faite il y a 2 jours, hein, donc elle est bien... Tu as regardé-moi ça. Tu as l'épaisseur comme ça de la pâte qui est à la fois... Enfin, on sent qu'elle est mature, quoi.
Bonjour, je m'appelle Marie-Michel, je suis co-directrice de la coopérative Grappe.
Grappe, groupement régional alimentaire de proximité. Tiens, tiens.
Oui, Grappe, c'est une coopérative qui intervient en Rhône-Alpes, qui accompagne des artisans et des commerçants sur la thématique de l'alimentation bio et locale. Et donc, on prend en charge, nous, les services support pour que les personnes qu'on accompagne, elles se concentrent sur leur cœur de métier, elles puissent faire ce qu'elles aiment. Et nous, on fait tout ce qui va être comptabilité, administrative, fiche de paye, l'informatique. Et on les accompagne dans toutes leurs problématiques du quotidien. Donc, on répond aux questions peut-être voir les prix ensemble, réfléchir aux circuits de commercialisation, etc. Et pour une partie des personnes qui nous rejoignent dans la coopérative, on a le statut de CAE. Donc ça, c'est un statut particulier et spécifique. Donc c'est coopérative d'activité et d'emploi. Ça veut dire qu'on héberge juridiquement les personnes qui sont parmi nous. Elles n'ont pas besoin de recréer d'entreprise et elles ont un statut très intéressant, que je pourrais t'expliquer un petit peu mieux, qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié et associé, qui permet d'être à la fois entrepreneur ou entrepreneuse et salarié en CDI de son activité. C'est entrepreneur salarié, c'est-à-dire que quand même, leur salaire, il dépend du chiffre qu'ils font. Donc s'ils font pas de chiffre, ils ont pas de salaire. Voilà, donc c'est vraiment le parti entrepreneur. Mais il n'y a pas de lien de subordination entre la coopérative et la personne qui s'emploie elle-même, qui développe sa propre activité, qui doit trouver ses propres clients, etc. C'est qu'à cette condition qu'elle peut se sortir un salaire, etc. Et donc, en étant en CDI, ça permet d'avoir les protections sociales qui vont avec les protections sociales d'un CDI. Donc, on cotise au chômage, à la retraite, à l'assurance maladie, etc. Ce qui permet de, quand on veut arrêter son activité d'entrepreneur, pouvoir faire une rupture conventionnelle, toucher le chômage, par exemple, ou pouvoir tomber malade, avoir un enfant, etc., et d'être couvert un peu mieux qu'un statut de micro-entreprise.
Et alors ça, c'est...
Une crème, donc les oranges que je fais confire sur du feu de bois en hiver, que je transforme en,
en confit que je mixe et que je mélange avec des morceaux de noisettes, une poudre de noisettes et des morceaux d'orange confite.
Avant de devenir entrepreneur salarié, on passe par une autre étape, qui est une étape particulière, qui s'appelle le contrat CAP. C'est technique tout ça, hein, mais CAP, ça veut dire contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un statut qui permet de commencer à entreprendre, donc de facturer, de pouvoir faire des factures, récupérer la TVA, etc., d'avoir toute la légalité pour pouvoir entreprendre, également d'être couvert en cas d'accident du travail dans son labo quand on produit des choses, etc. Donc tout est l'assurance, tout est pris en compte. Simplement, la personne commence à facturer et puis dès qu'il y a suffisamment sur le compte, c'est là qu'elle va pouvoir se déclencher un salaire. Au début, on met de côté le temps qu'on puisse déclencher un vrai salaire.
Tu as fait tout de même des investissements pour agencer ton laboratoire.
Oui, mais tu vois, j'ai mis un an à chercher du matériel d'occasion. Et je tenais à avoir que du matériel d'occasion. À part mon four, tout est d'occasion. Il y a Sarah, une boulangère pâtissière de Fournée des Comètes aussi, qui est rentrée dans Grappe, Fournée des Comètes, qui m'a vendu du matériel super, en bon état, assez récent.
Grappe, c'est maintenant à peu près 300 personnes sur la région Rhône-Alpes, voilà. Mais dans la Drôme, puisque le bureau de Grappe ici a dit, on s'occupe des activités qui sont dans la Drôme, il y a une petite vingtaine d'activités. Et une 7 ou 8 sur le Diwa, exclusivement sur le Diwa. Il y a Après l'Orage, la brasserie Après l'Orage. Il y a la Caravane Passe, qui est donc une pizzeria dans une caravane qui va être cet été les mardis au camping de Die. Petite publicité. Il y a l'épicerie de la Milpa à Luc, qui est une épicerie en scop. Le restaurant Obo, qui est à l'avant-poste. Et puis à Cray, il y a Roule ta boule, il y a l'épicerie géniale qui est à Aust-sur-Cie, qui est une épicerie associative, il y a l'épicerie associative de Beaufort-sur-Gervanne, par exemple. Ah oui, et il y a aussi Adrien de Chocolatier d'Art qui tient la boutique Chemise et Chocolat à Saillant. Donc Grappe, on est ici basé à la Carline. En fait, les bureaux de la coopérative sont dans les bureaux de la Carline parce qu'on est en lien très fort depuis un moment maintenant, depuis 2016. Et on est associés, donc c'est-à-dire que les deux coopératives sont associées l'une de l'autre et qu'on s'épaule et qu'on s'accompagne sur de multiples sujets, notamment des formations qu'on va faire ensemble, de l'accompagnement collectif. On partage des salariés qui mutualisent du temps de travail. Eux, ils ont aussi un besoin à la Carline de pouvoir accompagner des structures qui se lancent sur le territoire en vue de promouvoir l'agriculture biologique, des commerces et des artisans. Et donc, on se retrouve à avoir plein de synergies qui fait qu'on travaille très bien ensemble et que voilà, on chemine côte à côte.
Camille, l'asso. Ça va toujours? Ben oui, vous écoutez Il est une vallée sur RDIWA et Radio Saint-Féréol, des bâtisseuses de nouveaux commerces, avec Adèle Collard et Marie Michel. vallée. Sur Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Marie-Michel, le grappe.
Le fait d'être un groupement et de sécuriser comme ça les parcours des personnes qui nous rejoignent pour leur permettre de faciliter leur installation dans un nouveau métier, ça fait que chez nous, il y a 2/3 des entrepreneurs qui sont des entrepreneuses, qui sont des femmes et qui se mettent ensemble aussi pour réfléchir à leurs pratiques, à leur manière de faire, etc. Donc il y a des groupes de travail spécifiques. Par exemple, il y a un groupe de travail sur la boulangerie qui traite des questions de boulangerie, un groupe de travail des épiciers qui partagent leurs échanges de pratiques sur plein de petits sujets du quotidien de quand on est épicier. Tout ça, ça aide à être un peu plus solide et à pouvoir faire face aux difficultés quand il y en a aussi, et puis partager ses bons plans, ses fournisseurs, etc. Mais sur ce 2/3 de femmes, c'est intéressant parce que, en fait, en France, il y a plutôt les chiffres, les statistiques, c'est plutôt 2/3 des entrepreneurs sont des hommes. Et on voit que dans les coopératives d'activité de manière générale, alors Agra particulièrement, mais aussi dans les autres, mais finalement, c'est plus aussi des femmes qui entreprennent. Et donc, ça permet de pouvoir aussi construire un emploi qui est proche de chez soi, qui permette de concilier vie pro, vie perso, et de ne pas le faire tout seul, comme le disait Adèle, c'est-à-dire que voilà, on peut décrocher le téléphone, il y a toujours un accompagnatrice, une accompagnateur au bout du fil, ou bien d'autres personnes qui font le même métier et qui vont déjà être passées par peut-être les mêmes galères ou avoir trouvé le bon plan pour nous sortir de l'affaire plus vite, quoi. Mais il y a aussi derrière ça un vrai projet politique en termes de, à la fois, partage de la responsabilité, donc une grosse réflexion autour du partage du pouvoir dans l'entreprise. Donc on réfléchit beaucoup à ces notions-là de comment on prend les décisions à plusieurs, comment on squeeze les liens de subordination. Et puis, quand on crée tous de la valeur, comment on répartit cette valeur? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a à la fin de l'année avec des mécanismes de solidarité qui sont en interne? Donc au-delà de protéger les individus, il y a aussi un vrai projet politique derrière la structure.
Ce que je trouve très important dans ce que vient de dire Marie, c'est que là où ça rebondit sur mon échelle à moi, c'est que moi, toute la période où j'ai fait mes stages professionnels et mes formations, finalement, tout le monde me disait, mais en fait, à part être ouvrier, salarié dans une entreprise, tu ne pourras rien faire d'autre. Donc, à mon âge de reconversion professionnelle, rester à l'échelle le plus bas dans l'entreprise. Et en fait, ce que je trouve hyper... ce dont je suis très fière, c'est que, en fait, je peux me dire que j'ai une activité à taille humaine de femme, d'une activité qui est en lien avec le proche et en même temps qui est dans un tissu et que c'est possible, que je peux être dans une concurrence économique avec les grands. Et que petite comme ça, je peux aussi avoir ma place et je peux créer une activité, je peux avoir un salaire, je peux, et que ça a de la valeur et que j'ai de la reconnaissance et que j'ai des clients et que les gens demandent de ça. Les gens sont hyper contents de pouvoir tout simplement acheter un gâteau qui est décoré avec les framboises de la colline derrière, qui a été fabriqué par mes mains, qui a un bilan carbone super bon, et il y a une confiance, et que je pense que ça fait plaisir aux gens et à moi aussi.
Et puis c'est aussi protéger notre système de redistribution française, parce que voilà, en étant en CDI, on cotise à nos systèmes de redistribution. C'est-à-dire que si on est dans un système où tout le monde est en micro-entreprise, en fait, on a des cotisations très faibles, des cotisations pour les retraites, pour le chômage, etc. Mais donc si tout le monde se met en micro-entreprise, il y a plus beaucoup d'argent non plus qui rentre dans les caisses au niveau national. Donc c'est aussi défendre un statut de CDI, défendre un modèle social de redistribution à la française.
À la Diwaze.
Ein Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich ause.
En fait, ce que je voulais, c'est d'avoir une activité à taille humaine avec aussi un investissement raisonnable. Et j'ai ma marraine préférée, chérie d'amour de la vie, qui est décédée, malheureusement. Et ce qu'elle m'a laissé, ça m'a permis pile poil de faire mon investissement. C'est une jolie... tu vois, c'est une marraine franco-roumaine. C'est une magnifique transmission, quoi.
D'un point de vue de l'entreprise, où est-ce que, j'allais dire, où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelles sont tes perspectives, tes projets?
Oui, moi j'ai commencé il y a 2 ans, donc j'arrive bientôt à mon 2e anniversaire d'Engrappe, 2e anniversaire de mon première commande payée, première facture. Et donc moi je suis encore en contrat CAP. Il me reste encore une année dans ce statut et pendant cette année-là, mon but, c'est d'arriver à ma vitesse de croisière dans le travail, c'est-à-dire aboutir mon travail de communication, aboutir, élargir mon réseau de distribution avec mes partenaires, de pouvoir répondre déjà à la hauteur de ce que j'aimerais aux partenaires avec qui je travaille. Donc il y a la Carline, qui sont une partenaire très importante pour moi, que je livre 2 fois par semaine et qui me soutiennent beaucoup. Je travaille avec Maison Azo à Recubo, qui a un salon thé, qui me prend des gâteaux tous les week-ends. Et c'est une grande complicité d'imaginer, de faire plaisir à Julie Charnay qui s'occupe de ce lieu pour créer des bons gâteaux pour son beau lieu. J'ai été aussi heureusement invitée dans un groupe d'artisans qui ont créé une boutique d'artisans de la rue Camille Buffardel. Qui sont des métiers plutôt pas alimentaires et ils ont eu l'idée d'inviter du chocolat mais aussi de la pâtisserie fraîche pour lesquelles les gens peuvent rentrer au quotidien pour trouver des gâteaux. Et donc là on a une quizaine d'artisans, il y a 8 artisans nous sommes des bâtisseurs, voilà. On est un groupe de bâtisseurs qui faisons les permanences sur place, donc à la boutique 43, au 43 rue Camille Buffardel. Et depuis le début du mois de juin, donc je livre aussi mes tartes à la Trauberitz, qui est ce nouveau salon de thé incroyable sur la place du marché.
Nous sommes mercredi 15 octobre 2023 et nous sommes au 43 rue Camille Buffardel. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici?
En fait, c'est un magasin d'artisans. On a ouvert aujourd'hui, donc on est hyper contents. On a plein de monde dans le magasin. Et donc, c'est des artisans qui se sont regroupés pour présenter leur travail. On a de tournures sur bois, de la céramique, des chapeaux, des chemises, des bijoux, du chocolat, des couteaux. Voilà. Il y en a plein de métiers différents. Et c'est des artisans, c'est un peu... On a de très jolis magasins d'artisans à Die. Et là, c'est des artisans qui ont trouvé une place aussi ensemble, comme ça.
Qu'est-ce qui vous lie les uns, les unes et les autres ici? Il y a le magasin, mais il y a bien sûr quelque chose d'autre, plus fondamental sans doute.
Je crois que le travail manuel, le travail d'artisanat, c'est très important de travailler avec des matières naturelles. Il y a une envie de proximité, c'est des gens d'ici. Et on se connaît aussi, voilà, on s'entraide, on coopère dans des domaines, plein de domaines différents. Donc, ça crée du lien, oui.
C'est défendre de nouvelles manières de faire du commerce, qui va au-delà de faire simplement de l'argent pour soi.
Notre souhait, c'est que les gens se rémunèrent de leur travail et non pas du capital qu'ils investissent dans la structure dans laquelle ils travaillent. Quand on est commerçant, souvent, on se paye pas beaucoup pendant plusieurs années et on mise tout sur la revente maximale du fonds de commerce. Donc, il y a cette idée de capitaliser son matériel, son outil de travail, etc. Là, on n'est pas vraiment dans le même schéma, dans le sens où on va encourager les gens à faire une activité qu'ils aiment, le faire avec le plus de soin possible, avec des produits qui sont aussi les meilleurs possibles, locaux, bio, etc. Et de se sortir un salaire, de cotiser, de pouvoir vivre de leur activité. C'est vraiment ça le projet. Le projet, c'est pas de créer des choses pour pouvoir les revendre le plus possible derrière. C'est plutôt de pouvoir transmettre à des collègues, par exemple en créant une scope, une épicerie en scope comme la Milpa à Luc. Ils ont créé leur projet, ils en sont salariés, et quand ils partiront, c'est les individus qui partiront, ils se feront remplacer par d'autres. Il n'y aura pas de revente de l'épicerie. C'est juste, on préserve l'outil de travail, on fait en sorte qu'il fonctionne, qu'il fasse vivre à la fois les gens qui sont dedans, qui travaillent concrètement, et aussi tous les producteurs et productrices qui sont autour, avec lesquels on va avoir des liens forts directement et soutenir leur activité au quotidien. Oui, et comme je disais, il y a prendre soin de l'individu, prendre soin de notre système, prendre soin du collectif aussi. Et par exemple, on a pour bien travailler ensemble, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se voir régulièrement. Donc une partie de notre travail, il consiste à créer des temps de rencontres, de partage. Donc c'est à la fois autour de formation, mais aussi d'autres types de réunions où on va pouvoir construire ensemble là où on a envie d'aller. Et donc on remet souvent en question les choix qu'on fait. En tout cas, on se questionne sur la meilleure manière de faire face au monde qui nous entoure et de faire avancer les questions sur l'entrepreneuriat et l'alimentation au fur et à mesure des choses qui arrivent.
Les sujets, c'est autour évidemment de la coopération, c'est ce que tu as dit là, la confiance, être ensemble.
Oui, je peux prendre deux exemples pour parler de ça. Par exemple, la création de l'épicerie de Luc Andiwa. Ça a pris le temps. Il y a eu 3 ans de maturation du projet. Et les personnes qui ont monté le projet avaient besoin de se former à l'épicerie. Et donc, par exemple, la Carline a été tout à fait accueillante pour ses porteurs de projet et a même embauché les personnes qui ont monté l'épicerie, notamment Cosima et Marion, pour ne pas les citer, qui ont passé du temps en tant que salariés de la Carline pour bien apprendre le métier. Et en ce sens, on peut dire qu'ils ont formé leur future concurrente. Parce que finalement, les gens de Luc, ils ont créé cette épicerie pour justement pas avoir à venir en voiture à Aldi pour faire les courses à la Carline. Donc clairement, ils ont formé leur propre source de concurrence. Et ça, c'est pas partout qu'on voit ça. Ou un autre exemple, c'est par exemple, j'ai croisé il y a 2 semaines un boulanger de la coopérative qui est dans la rue comme ça, qui me dit « Oh là, Marie, c'est incroyable, j'ai échangé l'autre jour avec un autre boulanger de la coopérative qui est en Savoie, et ben il m'a donné un tuyau, et en fin de compte, il y a un truc que je faisais, mais je sais pas pourquoi je le faisais comme ça, depuis qu'il m'a dit ça, je gagne 1 heure par semaine pour faire mes cookies ». Et finalement, c'est aussi ce genre de petites informations-là. C'est pas grand-chose, mais au final, ça simplifie la vie et ça permet qu'il fasse autre chose de son heure de travail qui passe maintenant pour du perso, quoi.
En prenant soin de toutes ces petites choses, ces petites productions, de toutes ces rêveries et de tous ces projets construits, menés, venir dessiner certainement un projet de société.
Oui, clairement, nous, à Grappe, c'est ça qu'on défend. Et quand je parlais de défendre d'un projet politique et social, c'est écrit dans les statuts que c'est ça qu'on veut. On veut des commerces et des commerçants qui fassent attention à l'environnement dans lequel ils se créent et se développent. Et ça veut dire, comme j'ai dit, promouvoir un certain statut et une certaine manière de faire ensemble qui, dans notre cadre, est circonspecte par l'aspect coopératif de notre société, par exemple.
Donc mon atelier, c'est un petit cabanon de bâtiments agricoles des vignes d'Ivoise que j'ai aménagé au laboratoire de pâtisserie, entouré de mes bacs de fleurs comestibles, des arbres fruitiers. Donc c'est dans un cadre assez idyllique.
Un cadre qui vient soutenir le désir, l'appétit de faire.
Oui, parce que donc je suis certifiée en agriculture biologique, donc tous mes gâteaux sont 100% bio, et j'ai aussi ce petit plaisir d'autoriser, donc, je suis autorisée par ma certificatrice bio d'avoir un peu de cueillette sauvage, donc je peux produire mes fleurs comestibles bio dans mon jardin, donc au moment où je sors le gâteau devant mon atelier, j'ai une vingtaine de fleurs comestibles qui viennent juste faire l'ornement des dernières touches du gâteau. Et je crois que si j'étais dans un banlieue, je ne pourrais pas faire ça.
Et voilà encore une fois ce que les humains, les humaines, je ne sais pas si ça se dit, sont capables de faire quand ils et elles sont ensemble. En fait, ce sont tout plein d'histoires de vie qui se croisent, qui s'entremêlent et s'inspirent. Ben oui, parce que peut-être qu'avec tout ça, on pourrait changer le monde. Il est temps que je rende l'antenne, les amis. Bon, c'est pas facile de se taire quand on a un micro, mais tout de même... À tout bientôt, à la semaine prochaine, on se retrouvera donc pour clôturer notre cycle de ce mois de mai au sujet de l'engagement citoyen avec une question, c'est quoi une bonne aventure ? Tiens, tiens. C'était des bâtisseuses de nouveaux commerces avec Adèle Collard, la mâtisserie d'Adèle à Die, et Marie-Michel du GRAP, Groupement Régional Alimentaire de Proximité. Merci à vous de nous avoir confié vos voix. Une réalisation Vincent pour RDIWA et Radio Saint-Féréol. Il est une vallée, une série financée et coproduite par l'association Bio Vallée. À bientôt. Dass ich unbeweglich bin.